Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Kho Siam, le palais présidentiel, pour une interview exclusive avec le président de la République du Burkina Faso, Roch Marc Christian Caboret. Monsieur le Président, merci de nous accueillir et bonjour.
Bonjour.
Avec moi pour vous interviewer, Christophe Boisbouvier de RFI.
Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour, Boisbouvier.
Monsieur le Président, il y a une semaine, 4 otages ont été libérés au Mali, en échange de la libération de quelques 200 présumés djihadistes. Parmi eux figure le cerveau présumé d'attaques qui ont eu lieu en 2016 à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, mais ici même à Ouagadougou, contre l'hôtel Splendide, le restaurant Cappuccino, on se souvient, une trentaine de morts. Quelle est votre réaction? Est-ce que ça vous révolte?
D'abord, je voudrais saluer la libération des otages. Car vous savez très bien que M. Soumaïla Cissé, qui est le chef de file de l'opposition politique au Mali, a été enlevé depuis un certain temps. Et il était important qu'on puisse aboutir à sa libération. Maintenant, en ce qui concerne la contrepartie, nous pouvons dire que la contrepartie a été payée cher. Mais en tout état de cause, comme c'est une négociation entre l'État malien et également, je dirais, le camp des preneurs d'otages, je ne pourrais pas vraiment, je dirais, donner un avis motivé sur cette question, sauf de dire simplement que nous devons continuer à assumer la lutte contre le terrorisme comme étant une priorité, aussi bien pour le Burkina Faso que pour tous les autres pays du G5 Sahel.
Mais Monsieur le Président, juste après cette libération, on le voit ces derniers jours, il y a eu de multiples attaques au Mali, revendiquées par le groupe même avec qui on avait négocié. N'est-ce pas leur réponse? N'est-ce pas un cadeau?
Mais difficile d'apprécier la situation dans ce contexte. Vous savez que même ici au Burkina Faso, hier seulement, nous avons subi une attaque contre des populations civiles, soit sur un marché, soit dans leur village, qui ont coûté la vie à près d'une vingtaine de personnes. Vous savez, le terrorisme, c'est, comme on dit, c'est un domaine qui est tellement ondoyant, il y a tellement de groupes et de sous-groupes qui travaillent dans ce domaine, qu'il est difficile de pouvoir apprécier dès maintenant. Donnons-nous le temps de voir un peu comment les choses évoluent. Je ne sais pas les conditions des négociations telles que ça a été mené. Est-ce que ça devait amener à une accalmie si cela se passait? Est-ce que c'est simplement de retirer, de pouvoir sauver des otages? Je n'en sais rien. Donc c'est pourquoi je préfère ne pas me lancer dans une appréciation hasardeuse de cette situation.
Et quand le cerveau de Grand Bassam et du Cappuccino a été libéré, vous étiez au courant à l'avance? Vous avez été consulté?
Pas du tout. Nous, on a suivi les événements comme tout le monde, suivant avec beaucoup d'impatience la libération des otages. Et la contrepartie, nous n'étions pas là-bas, donc je considère que c'est le Mali qui a décidé de pouvoir gérer cette situation de manière à pouvoir libérer les otages. En tout état de cause, ce que je veux dire, cela n'entame à rien notre engagement à continuer à lutter contre le terrorisme dans la sous-région et dans notre pays en particulier.
Alors justement, depuis votre élection il y a 5 ans, Monsieur le Président, la situation sécuritaire s'est beaucoup dégradée au Burkina Faso, dans le nord-est, dans le nord, dans l'est. On déplore plus de 1100 morts et plus d'1 million de déplacés. Un tel bilan oblige à se demander si vous n'avez pas sous-estimé il y a 5 ans la menace djihadiste. Est-ce que vous reconnaissez des erreurs?
Je pense que nous n'avons rien sous-estimé du tout. Vous savez très bien qu'au moment où nous organisions ces élections en 2015, il était loin de l'esprit de tout Burkinabé que nous serions rattrapés par des attaques terroristes sur notre territoire. Et 15 jours après l'investiture, nous avons eu la première attaque au Cappuccino qui a causé une trentaine de morts. Et dès cet instant, les attaques terroristes se sont multipliées sur quasiment toutes nos frontières, avec le Mali, avec le Niger, que nous avons. Je dois dire simplement que c'est une situation inédite pour nous. Elle est nouvelle. Donc, il était tout à fait normal que, dans un premier temps, après la période de stupeur, nous nous concentrons pour nous organiser de manière à apporter une riposte conséquente, je dirais, à ce phénomène-là. Ce qui est certain, c'est que la lutte contre le terrorisme, et l'expérience nous le montre partout, et c'est une lutte de longue haleine. Parce que vous n'avez pas affaire à des personnes qui sont assises sur un pan du territoire et qui gèrent le territoire. Ils se déplacent quotidiennement, ils tendent des embuscades à nos armées, ils attaquent les populations civiles de manière à créer plusieurs choses. La psychose, la désarticulation du tissu social, les batailles entre les communautés, ce qui aujourd'hui, comme vous l'avez dit, 1 million de personnes déplacées. Nous avons subi des conséquences humaines importantes, des gens qui sont morts. Et je dois dire que, également, ça aboutit à des conséquences telles que la stigmatisation, telles que les replis identitaires, qui sont des questions sur lesquelles nous devons travailler avec les communautés pour amener les gens à se démarquer, je dirais, de ce processus sanguinaire qui est engagé par, je dirais, les terroristes.
Alors en septembre 2019, lors d'un sommet de la CEDEAO, ici même à Ouagadougou, une centaine de soldats français se sont déployés à votre demande pour sécuriser la ville de Djibo dans le nord. Il y a eu plusieurs autres interventions militaires françaises sur le sol burkinabé. Alors est-ce que ça ne justifie pas ce que le chef d'état-major des armées françaises, le général Lecointre, avait déclaré il y a quelques mois, si on s'en va, les pays du Sahel s'effondreront sur eux-mêmes?
Non, je voudrais dire que les opérations que nous organisons avec la France sont des opérations de caractère ponctuel. Parce que de façon fondamentale, l'armée burkinabé, depuis le constat qui a été fait aux premières heures des attentats, tout en travaillant dans le cadre du G5 avec Barkhane, fait en sorte que nous avons fait en sorte de pouvoir, aussi bien en termes de formation qu'en termes de matériel, doter notre armée pour assurer ses missions de sécurisation, je dirais, de notre pays. Nous avons de très bons rapports, comme je dirais, avec Barkhane et avec le G5 Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et nous travaillons ensemble sur un certain nombre de fronts. Mais je voudrais dire que ce que l'armée de Burkina Faso et, je dirais, les armées du G5 ont toujours demandé, le gouvernement, c'est que il faut que nous ayons par l'ONU une source de financement pérenne des troupes du G5. Ça, c'est la première préoccupation. Au-delà de ça, je pense que si cette source existe, si nous avons des bons encadrements pour la formation de nos hommes, nous pouvons nous-mêmes assumer cette mission-là.
Mais sans les forces françaises, les terroristes seraient à Ouaga.
Ah non, peut-être pas. Parce que pour l'instant, je peux vous dire qu'à l'intérieur du Burkina Faso, c'est les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie qui travaillent sur le territoire burkinabé.
Et qui gagnent ?
Et gagnent. Ça avance. C'est un combat, je dirais, qui se mène au quotidien. Et il y a des pour et des contre. Mais je pense que globalement, nous pouvons dire que la situation est bonne. Elle est difficile, mais nous avons bon espoir de pouvoir réussir dans ce combat-là.
Le financement pérenne de l'ONU, ce sont les États-Unis qui bloquent. Est-ce que vous souhaitez la victoire de Joe Biden le 3 novembre prochain aux États-Unis?
Bon, le peuple américain choisira son candidat. En tout état de cause, nous continuons avec nos partenaires au niveau des tribunes de l'ONU à insister sur cette question. Mais je dois vous rappeler aussi que Barkhane, la plus grande force de Barkhane est installée plutôt au Mali qu'au Burkina Faso. Donc, je réitère pour vous dire que les opérations que nous menons ensemble, ce sont des opérations à caractère ponctuel entre le Burkina Faso, la force Barkhane et le G5 Sahel, mais de façon structurelle dans la lutte contre le terrorisme, c'est l'armée burkinabé qui assume ses missions.
Vous venez de parler des attaques, des batailles entre communautés. C'est un mot fort et c'est vrai qu'en plus de leurs attaques meurtrières, les djihadistes semblent avoir réussi à monter les communautés les unes contre les autres. De votre côté, en janvier dernier, Monsieur le Président, vous avez fait voter une loi qui permet le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie, ce qui ressemble à des milices d'autodéfense. Est-ce que ça n'aboutit pas à armer des civils anti-Peul? Est-ce que vous n'êtes peut-être pas tombé dans le piège ethnique que vous ont tendu ces djihadistes?
Non, je pense que quand vous dites déjà c'est une loi qui a adopté la participation des populations à la défense de la patrie, Je pense que c'est une loi, ce n'est pas une milice du tout. C'est réglementé, c'est encadré par les forces de défense et de sécurité. L'idée étant qu'il fallait faire en sorte que nous avons plus de 8000 à 9000 villages au Burkina Faso. C'était de rapprocher une forme de sécurité villageoise connue qui permette d'anticiper sur les attaques des terroristes dans les villages et qui permette à l'armée, le cas échéant, de pouvoir approcher les situations et défendre les populations de façon utile. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, des terroristes ont circulé sur leur passage, ils s'arrêtent dans un village, ils ont tué des gens, ils vont dans un marché, ils tirent sur des populations, ils les tuent. Aucune garantie, aucune sécurité. De façon technique et matérielle, l'armée ne peut pas être déployée sur 8000 villages en même temps. Donc c'est pour dire, nous ne sommes pas dans un piège, nous ne sommes pas tombés dans un piège, parce que ça correspond à un recrutement sur l'ensemble du territoire et de l'ensemble des communautés qui participent justement à ce travail-là. Les terroristes, eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de séparer les communautés, de montrer qu'il n'y a pas de raison de liquider une partie de certaines personnes, de laisser certaines communautés, et de manière à monter la pression et à nous amener dans des guerres, je dirais, intercommunautaires qui sont vraiment des questions que nous n'avons jamais connues depuis notre indépendance jusqu'à ce jour.
Mais simplement, Monsieur le Président, c'était à Nouakchott, lors du dernier sommet du G5 Sahel en juin dernier, quand Emmanuel Macron a dit « les Peuls ne sont l'ennemi de personne », est-ce qu'il ne pensait pas très fort au Burkina Faso ?
Pas du tout. Parce que je veux dire que les Peuls, comme je vous l'ai dit, ne sont pas les ennemis du Burkinabé. Vous pouvez aller dans tout ce pays, partout où vous avez des villages d'autres communautés, il y a toujours un chef de la communauté Peul dans ces villages. Nous avons une situation qui est née dans une zone, qui est la zone du Sahel, où communément on peut dire que la majorité des personnes qui y vivent sont des Peuls, mais on n'a aucunement une question de stigmatisation des Peuls au niveau du Burkina Faso. Et je défie quiconque, il peut aller dans tous les villages qui ne sont pas dans des questions sécuritaires hautement élevées que le Sahel et autres, que dans tous ces villages, vous trouverez toujours à côté des chefs des autochtones une chefferie Peul, une population Peul qui vit en harmonie avec les autres.
Donc pour vous, le risque de guerre intracommunautaire n'existe pas.
C'est limité pour l'instant dans les zones de combat où nous sommes.
Alors, je veux en venir à des abus qui ont été dénoncés, reliés à des abus de certaines de ces milices. Mais en juillet, Human Rights Watch a également affirmé avoir découvert au moins 180 corps enterrés dans la région de Djibo, dans le nord, et affirme que c'est l'armée qui est à l'origine de ces tueries. Alors cela a créé de l'émoi dans la communauté internationale. Cela a même poussé des officiels de l'administration Trump à menacer de suspendre la coopération sécuritaire, si jamais une enquête indépendante n'était pas ouverte. Alors votre réaction à ces exactions, et est-ce qu'une véritable enquête est menée pour satisfaire la communauté internationale ?
Vous savez, lorsqu'il y a des conflits dans des pays, il y a toujours un certain lobby qui diffuse un certain nombre d'informations. Nous les attendons pour qu'ils veulent nous donner ces 180
corps. C'est une organisation de défense des droits de l'homme.
C'est ça. Qui travaille sur la base d'informations, d'éléments qui contribuent à vouloir salir l'image de Marc de Burkina Faso. Vous étiez surpris, nous aussi, on était aussi surpris que vous.
Mais c'est un mensonge ou pas ?
De toute façon, nous, on les attend toujours pour qu'ils viennent nous montrer 180 corps.
Et vous enquêtez sur cette affaire ?
Mais nous avons fait des enquêtes, nous avons dit que nous ne sommes pas concernés. Nous avons répondu au gouvernement américain. Nous avons dit jamais, nos forces armées, qu'il y ait, de temps en temps, il peut y avoir des insuffisances. Je ne peux pas dire à 100%
voir des tueries.
Les machins. Mais je dis jamais, l'armée burkinabé n'osera tuer 180 personnes en une fois pour les enterrer dans des fosses communes. Ça, je peux vous donner ma main au feu pour ça. Parce que je considère que les questions des droits humains ont été toujours des questions sur lesquelles j'ai été très ferme avec nos militaires pour dire il faut que nous-mêmes nous fassions en sorte à gagner la confiance des populations. Ce n'est pas possible. Vous savez très bien que dans ces zones aujourd'hui, et comme vous l'entendez, vous-même vous le diffusez, des combats même entre les milices terroristes se mènent là-bas. Il y a des cinquantaines de morts. Nous n'y intervenons pas. Parce que c'est entre eux que les règlements des comptes se font. Mais comme je dis, je refuse de porter toujours la casquette qu'on veut nous faire porter, de dire qu'au Burkina Faso, nous avons tué 180 personnes ou 150 qu'on a enterrées dans des fosses communes. Ça n'existe pas. Ça, je peux être catégorique là-dessus.
Le 22 novembre, Monsieur le Président, vous serez candidat à un deuxième mandat de 5 ans, mais à l'heure du bilan, Zéphirin Diabré affirme que vos 5 ans au pouvoir ont été caractérisés par la mauvaise gestion, par la gabegie. Eddy Kombo-Higo dénonce le marasme économique, la corruption. Cadré Désiré Ouédraogo pointe vos résultats calamiteux sur le plan du vivre ensemble. Est-ce que vos principaux adversaires ne disent pas là certaines choses pertinentes ?
Vous savez, je n'ai jamais vu dans un pays une opposition qui dit du bien du président qui sort. Je pense que ça, c'est une valeur qui est universelle. Évidemment, comme je dis toujours aux uns aux autres, il est facile d'être assis devant sa télé et de faire des déclarations. Ce n'est pas ça la question. Le bilan que nous proposons et que nous avons soumis au peuple burkinabé aujourd'hui, c'est un bilan qui est positif. Je le dis, ce n'est pas parce que je manque de modestie, mais c'est une réalité. Depuis 2015 à nos jours, nous avons avancé sur un certain nombre de domaines qui sont importants. Sur le plan de la démocratie, vous savez très bien que sur la base du pacte national du renouveau de la justice, nous sommes engagés dans un travail qui permet aujourd'hui d'avoir une justice indépendante. Deuxièmement, sur le plan des libertés, comme vous pouvez le constater au Burkina Faso, nous pouvons dire que l'ancrage démocratique également est une réalité. Sur le plan des infrastructures, toutes confondues, que ce soit sanitaire, que ce soit infrastructurel, que ce soit en matière, je dirais, d'électricité, les réalisations qui ont été faites aujourd'hui, je défie, sur le plan des statistiques, de regarder en 4-5 ans ce que nous avons fait par rapport à ce qui a pu se faire sur les années précédentes, avant nous. Et je voudrais dire également, au plan de la santé, non seulement dès 2016, nous avons pris la mesure qui consistait justement à faire en sorte qu'il y ait la gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans, et cette mesure que nous avons prise continue d'avoir ses effets et d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Je défie également le fait que sur le plan des avantages concernant les travailleurs du Burkina Faso, les efforts que nous avons faits malgré le contexte, je dis bien malgré le contexte, aussi bien sécuritaire qu'aujourd'hui le contexte de la COVID-19, ce sont des efforts qui n'ont jamais été faits dans ce pays. Je ne dis pas que nous avons tout résolu. Mais je suis certain que des efforts notables ont été faits et sont appréciés.
Vous espérez passer dès le premier tour, comme en 2015, mais si vous êtes mis en ballottage, est-ce que vous accepterez le verdict des urnes ?
Je suis un démocrate et je peux être sûr que, quelle que soit la situation, en ce qui me concerne en tant que candidat, j'accepterai les urnes telles qu'elles se présenteront. Je ne dis pas que je passerai au premier tour. Tout dépend du peuple burkinabé. C'est le peuple qui vote. Je respecte tous les autres candidats. Le résultat sera le 22 novembre au soir. Donc, soyons patients. Et je souhaite que tous les autres candidats aient la même attitude que moi, que nous acceptions tous le verdict des urnes.
Vous en doutez ?
Je n'en doute pas. J'attends de voir.
Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui le 15 octobre. C'est une date symbolique, voire très symbolique pour tous les Burkinabés. C'est la commémoration de l'assassinat de Thomas Sankara, le 33e anniversaire. Alors, il y a eu une instruction qui a été menée par un juge. Elle est bouclée. Il y a une dizaine de suspects qui ont été identifiés, dont l'ancien président Blaise Compaoré. Alors, une question se pose. Y aura-t-il un procès bientôt? Et j'aimerais avoir votre intime conviction au-delà des affaires juridiques. Est-ce que vous pensez que Blaise Compaoré est impliqué dans la mort de Thomas Sankara?
Vous savez, je pense que, comme vous l'avez si bien souligné, c'est un dossier qui est aux mains de la justice. L'objectif, c'est qu'il faut qu'il y ait un jugement. Forcément. On ne peut pas faire des investigations et mettre le dossier sur le boisseau. Donc, forcément, il y aura jugement.
Bientôt.
Je ne voudrais pas, je ne sais pas ça, c'est la justice qui décidera du rythme qu'ils vont mettre à cette question. Je ne voudrais pas m'avancer pour accuser des gens d'avoir participé ou d'avoir pas participé. Laissons la justice faire son travail et la vérité sera mise à jour pour tout le monde. Je pense que c'est la seule attitude correcte que je peux avoir en tant que chef d'État. Et même si j'ai des avis politiques que je peux exprimer, je pense que ce n'est pas le lieu de le faire.
Alors, comme promis par Emmanuel Macron, c'était ici même, dans ce palais de Kossiam, il y a 3 ans. La France a déclassifié 2 lots d'archives secrètes sur l'assassinat de Thomas Sankara. Les parties civiles sont plutôt déçues par le contenu de ces archives. Apparemment, un 3e lot qui était attendu n'est toujours pas arrivé. Parlons franchement, Monsieur le Président, est-ce que c'est le signe que la France a quelque chose à cacher et que François Mitterrand est impliqué dans cette affaire ?
Je ne saurais le dire. Ce que je constate simplement, c'est que, en dépit du fait que tous les 3 ne sont pas parvenus, la justice burkinabé a décidé de poursuivre avec les éléments qui étaient mis à sa disposition. Maintenant, la France est-elle impliquée, n'est pas impliquée ? L'histoire nous le dira peut-être plus tard.
Vous avez un soupçon, hein ?
Pas du tout. Je n'ai aucun soupçon. J'apprécie les choses sur la réalité des faits, c'est tout.
Les relations Oufouette-Sankara n'étaient pas bonnes, tout le monde s'en souvient. La Côte d'Ivoire de Félix Oufouette-Boigny, est-ce qu'elle est totalement étrangère à cette affaire ?
Ce qui est certain, c'est que, vous savez, c'est comme je vous dis, il est difficile d'apprécier ces différentes questions. Parce que Thomas Sankara a été quand même une icône de la lutte pour l'indépendance véritable du Burkina Faso et des États africains. Je pense qu'il dérangeait certainement beaucoup de monde, de par son langage, de par sa franchise, de par le fait qu'il tenait à ce que les États puissent eux-mêmes, de façon interne, mobiliser leurs ressources pour faire face aux besoins des populations. Peut-être était-ce un rêve, mais en tout état de cause, il a posé des actes qui sont restés dans la mémoire collective et des actes qui sont significatifs pour les Burkinabés.
Il dérangeait Oufouette.
Voilà. Non, même pas. Est-ce que c'est le seul? Il dérangeait tous ceux qui avaient une pensée unique et qui n'était pas la pensée qu'il avait. Maintenant, qui a fait quoi? Qui a contribué à faire quoi? Je crois que si nous suivons le fil, je dirais, du droit, on aboutira à une solution qui nous permettra de mieux comprendre effectivement pourquoi Thomas Sankara a été assassiné.
Alors, on a mentionné l'ancien président Blaise Compaoré. Il y a 18 mois, il vous a envoyé une lettre, une sorte d'offre de service. Vous ne lui avez pas répondu. Pourquoi ?
Non, je n'ai pas répondu à ces offres parce que je considère que l'offre était de dire... Je veux rentrer, j'aime mon pays, voilà. Je considérais d'abord que je trouvais un peu surprenant qu'un chef d'État qui a quitté son pays, qui est en difficulté, ne constate qu'après plusieurs années, que son pays est en difficulté. De façon globale, malgré les problèmes qui peuvent se poser, la solidarité d'un ancien responsable du pays vis-à-vis de son pays doit être une attitude qui, de mon point de vue, doit être constante. Non pas que je refuse la main tendue, là n'est pas la question, mais je dis simplement que nous sommes dans un processus, qui est un processus de réconciliation nationale qui a pris son temps, parce que, comme je dis, la réconciliation, ce n'est pas une course de vitesse. Il faut la faire de manière à ce que les Burkinabés apaisent les cœurs pour que nous puissions ensemble aboutir à quelque chose qui nous permette d'avancer. Moi, en ce qui me concerne, je dis simplement que nous aurons certainement, après les élections, à finaliser ce processus et je crois que tout le monde pourra rentrer.
y compris lui,
tranquillement, au Burkina Faso. Et ceux qui ont des dossiers en justice se présenteront pour défendre leurs dossiers à ce niveau.
Mais est-ce que vous pourriez, par exemple, lui garantir un retour sans procès et s'engager dans une sorte de modèle sud-africain, commission vérité et réconciliation ?
C'est pourquoi j'ai dit, j'ai dans ma vision, en tout cas, je considère que le premier semestre de 2025, si je suis, 2020, si je suis élu, 21, doit nous permettre de régler ces questions-là. Et dès 2021.
Parce que de son
maintenant,
temps.
Maintenant, je ne peux pas dire est-ce que je peux l'utiliser à rentrer. Ça, c'est ensemble, avec l'ensemble de.
Mais vous ne l'excluez pas.
Que nous pourrons faire, en discuter.
De son temps, il n'y avait pas d'attentat au Burkina Faso. Peut-être que son savoir-faire pourrait être utile, non ?
Oui, mais bon. Je préfère ne pas revenir sur des sujets qui fâchent, parce que je pense que ce n'est pas utile à ce moment. Ce qui nous intéresse simplement, c'est de faire face aux défis. Et je pense que la lutte contre le terrorisme, il n'y a pas des gens qui ont des solutions clés à main. Sinon, il y aurait des endroits où aujourd'hui le terrorisme serait fini.
Donc d'ici le 30 juin 2021, l'ancien président Blaise Compaoré sera ici.
Vous savez, j'avais toujours dit, on n'a interdit à personne de rentrer.
Oui, mais vous espérez
nous avons dit simplement que ceux qui rentrent, ceux qui ont des procès ou des problèmes à régler avec la justice, doivent se présenter au niveau de la justice. Donc pour nous, on considère simplement que une fois que nous aurons terminé avec les élections, nous allons réunir l'ensemble des composantes de notre société pour discuter de cette question de la réconciliation nationale et voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. En fonction de cela, la décision sera prise.
Dernière question, Monsieur le Président. Le coup d'État du 18 août dernier au Mali, est-ce que ça vous fait réfléchir sur la fragilité de la démocratie, notamment ici au Burkina Faso, où la dernière tentative de putsch remonte à il y a 5 ans à peine?
Je pense que le coup d'État, de façon générale, sont des questions, je dirais, à bannir dans le processus de la démocratie dans notre pays, de l'implémentation de la démocratie dans notre pays. C'est pour cela d'ailleurs que la CEDEAO a été obligée de prendre des mesures fortes de manière à faire en sorte que le retour à une transition civile puisse se faire et que nous puissions aller à des élections qui permettent au Mali de se retrouver dans le Conseil des Nations. La fragilité, elle est normale. La démocratie en Afrique est une démocratie qui, parfois, ne tient pas compte de toutes les réalités sociales et culturelles de notre pays. Mais en tout état de cause, je dois dire qu'on n'a que 60 années de pratique d'une démocratie, interrompue d'ailleurs parfois par des coups d'État. Et c'est une culture qu'il nous faut implémenter. Donc, fragilité, oui, mais je veux dire, est-ce inquiétant pour autant? Je dis pas du tout. Je pense que nous avons des outils qui nous permettent effectivement de gérer ces questions-là.
Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien au palais de Kossiam à Ouagadougou. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, Radio France Internationale et France 24.
Merci beaucoup.